genèveactive.ch.
Olivier Cacchiari, vous avez beaucoup écrit déjà pour la télévision, la radio et le théâtre. On se souvient de La mère et l'enfant se portent bien, il y a quelques années aux poches. Maintenant, vous êtes au théâtre des marionnettes. Comment se passe l'écriture selon que vous passiez du cinéma ou au théâtre? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que ce sont ces médias qui s'adaptent à votre écriture?
Alors d'abord, enfin, vraiment le point de départ pour moi, c'est le théâtre. Au tout début, je voulais être comédien. C'est pour ça que j'en suis arrivé à l'écriture théâtrale. Et depuis maintenant l'âge de 20 ans à peu près, j'écris pour le théâtre. Des satires sociales surtout, donc j'aime les comédies, j'aime faire rire. Je suis vraiment dans un registre plutôt dans des théâtres, je dirais, classiques et populaires. Et puis donc c'est mon fil rouge. Et puis après effectivement, chemin faisant, tout ce qui s'apparente à la réplique me plaît. Donc effectivement, je suis allé du côté de la télévision, du côté du cinéma. C'est plus souvent des commandes parce que c'est un autre type de travail. C'est un peu moins personnel. En plus, on dit souvent que en télévision et au cinéma, je dirais que l'auteur du film, en réalité, c'est le réalisateur. Donc vous mettez plutôt au service d'un réalisateur quand vous travaillez comme ça. Et j'ai beaucoup travaillé pour la radio, ce que j'adore, avec notamment Jean-Michel Meyer et Jean-Marie Félix. On avait écrit en son temps un très très beau feuilleton. Enfin, c'était vraiment amusé à le faire. Ça s'appelait Hors-jeu, avec Jacques Probst, d'ailleurs, qui est écrivain aussi comme personnage principal.
Et la satire sociale adaptée pour les enfants, est-ce qu'elle est adaptée ou c'est une satire sociale qui est vue d'une manière différente?
Alors, comme je dis souvent, moi, c'est vrai qu'en tant que satiriste, j'aime bien un petit peu molester mon public, le surprendre, lui tordre les idées préconçues. C'est la première fois que j'écris un happy end, même s'il n'est pas tout à fait happy, il est quand même grinçant. Parce qu'effectivement, avec Guy, très vite, on a vu qu'il m'a aussi beaucoup appris, on en parlera peut-être tout à l'heure de l'écriture pour les enfants et de la collaboration avec Guy, qu'effectivement, les enfants n'ont pas l'expérience suffisante et surtout ne savent pas faire la part entre le vrai et le faux. Donc, les laisser partir sur une fin trop dure, c'est vrai que ça peut les déstabiliser. Donc, je pense que les enfants, il faut vraiment les conduire de façon bienveillante.
Une happy end pour les jeunes, c'est quand même quelque chose d'obligatoire?
Pas obligatoire. D'abord, c'est pas les jeunes, c'est vraiment les enfants. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des âges. Ça aussi, j'ai découvert avec Guy, 6 ans, c'est des 6 ans. 6 ans, c'est quand même petit. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, j'avais en tête, quand j'écris pour les adultes, j'aime bien parfois laisser le public même sur sa faim ou sur quelque chose un peu dissonant, voire dérangeant. L'enfant, j'ai pour devoir de le conduire avec bienveillance. Je pense que c'est un devoir, même si justement, j'essaye de leur offrir dans cette pièce une certaine subversion à leur échelle, aussi la désobéissance, enfin, il y a plein de thématiques dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc voilà, et c'est vrai que Guy très vite m'a dit, voilà, à partir du moment où tu conclus quand même sur une note positive, alors là, en amont, on peut un petit peu leur faire peur, les titiller, les molester quelque peu.
Bon, vous parlez des thèmes, il y en a plusieurs. Est-ce que peut-être vont-ils tous les voir? Je pourrais relever par exemple la fraternité, l'exclusion, la désobéissance civile mais non violente, mais aussi l'éloge de l'amour, puisque au début de cette pièce, il y a une rencontre. Alors comment arriver à le rendre, donc cette pièce divertissante d'un côté, vous avez aussi, est-ce qu'on peut dire, des contraintes pour faire passer ces différents messages tout en les rendant amusants?
Ben, la seule contrainte que je m'impose en tant qu'écrivain, c'est déjà d'être compréhensible. Comme je le disais, je suis assez classique dans le sens où j'aime bien qu'il y ait du suspense, j'aime bien qu'il y ait un climax. Ça aussi, c'est des choses que j'ai aussi appris avec la télévision, le cinéma. J'aime vraiment bien charpenter une pièce et puis que chaque personnage ait un peu son tempérament et surtout essayer de faire le tour d'une problématique. Donc, comme vous le disiez, c'est une problématique assez vaste, cette histoire de petit pâturage, petite communauté ovine. Et donc voilà, très vite, au début de la pièce, pour que ce soit une bonne pièce, à mon sens, il faut déjà poser un problème qui pose un dilemme au personnage et donc même des dissensions au sein du groupe. Donc ce problème, c'est que le portail est cassé. On se réveille un matin, on ne sait pas trop comment, si c'est un coup de vent, voilà. Et donc on se sent plus protégé. Mais il se trouve que dans la communauté, personne ne sait réparer le portail. Donc on va passer une annonce et on va faire venir un mouton de l'extérieur, un mouton du dehors pour réparer. Il se trouve que c'est un mouton coloré. Mais il travaille très bien, donc il va s'intégrer. Et puis, vous le disiez, ça va commencer par une histoire d'amour interethnique, je dirais, avec une petite brebis blanche et puis ce mouton coloré qui est venu travailler là. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est très important, c'est que le héros, finalement, de l'histoire, c'est un petit mouton qui s'appelle Tim, auquel les enfants s'identifient. Ça aussi, pour moi, c'était important, qui vit avec sa grand-mère. Et puis, donc, ce couple bigarré va faire un petit agneau café au lait qui va devenir, évidemment, le meilleur ami de Tim. Donc, c'est Tim et Tom. Et voilà, et ensuite la situation va dégénérer, on aura moins d'herbe, ça va mal se passer, donc il va y avoir l'expulsion de toute la famille du mouton coloré, et donc le déchirement entre ces deux petits agneaux qui sont vraiment devenus des amis, et c'est très beau parce que alors, c'est vraiment des scènes très fortes pour les enfants parce qu'ils s'identifient à ces deux petits moutons, quoi. Et à ce moment-là, eh ben, ces moutons, ça vient des petits de se dire, voilà, moi j'en ai marre d'obéir, il y en a assez, les adultes se comportent n'importe comment, à partir du moment où on va reprendre les choses en main, quitte à devenir les vilains petits moutons. Et en fait, ils vont parvenir à rétablir la justice.
Ces petits moutons vivent en même temps dans un climat sécuritaire, beaucoup de ressemblances avec la période actuelle.
Alors oui, comme je dis, moi, j'essaye aussi de faire en sorte, une pièce, pour moi, la thématique, c'est comme les poupées russes, quoi. On devrait chaque fois démonter, puis trouver une petite poupée à l'intérieur qui lui ressemble, et ainsi de suite, ou des cercles concentriques. Donc effectivement, bien sûr, c'est loin d'être innocent, ce petit pâturage, mais il peut autant être assimilé à la Suisse, parce qu'on part de l'opulence pour aller jusqu'à la pénurie, c'est ça qui m'intéresse aussi, il y a une vraie dramaturgie, il y a une vraie avancée aussi pour les enfants, il y a un vrai, c'est une petite épopée, cette histoire en 70 minutes. Mais pour moi, c'est aussi l'Europe par rapport au reste du monde, avec la libre circulation des personnes, et puis quand on voit ce qui se passe, effectivement, il y a eu les vaches grasses, on s'aperçoit que tout ça n'était pas... tenait qu'à un fil, c'est en train de mal se passer, puis tout à coup, maintenant on envisage d'exclure des pays, et même les Grecs eux-mêmes se disent peut-être qu'il faudrait en sortir. Donc c'est un petit peu tout ça. Alors, moi, ce qui compte, c'est qu'il y a un premier niveau de lecture vraiment pour les enfants, qui est la fable, et qui retrouve, avec ce plaisir de suivre ce petit, parce qu'en plus, d'abord, avant d'avoir son ami, il s'ennuie, il est dans un monde d'adultes. Alors, en même temps, les adultes disent toujours « Ah, qu'est-ce qu'on est bien, c'est l'opulence !» Mais lui, il s'ennuie déjà. Donc, on pose déjà un problème. Et je pense que l'ennui aussi pour un enfant, c'est très, très parlant. Quand va arriver son petit copain, il ne s'ennuiera plus. Il dit d'ailleurs « Et si on s'ennuie à deux ?» Ah oui, bonne idée, parce qu'à deux, on s'ennuie moins. Et donc, voilà. Donc, il y a ce premier niveau de lecture pour les enfants. Puis après, même pour les adultes, tout ça, je me dis « Bon, là, ils trouveront, j'espère, leur compte et les petits, je dirais, les moyens et les grands. »
Il y a un sujet qu'ils comprendront certainement facilement, même dès le plus jeune âge, puisque ça se produit aussi à l'école, c'est celui du bouc émissaire qui a fait beaucoup parler.
Alors exactement, c'est malheureusement, je dirais, c'est dans le développement naturel de l'être humain, parce que les enfants à ce niveau-là sont assez cruels aussi, hein, l'égard du plus faible. Voilà, cette pièce, elle vise aussi, sans vouloir être didactique, pédagogique, j'aime pas, je raconte d'abord une histoire, mais aussi, effectivement, je me dis, voilà, ça leur raconte aussi au deuxième degré de dire, même dans la cour d'école, si le plus petit se fait taper dessus, vous n'êtes pas obligé de rigoler avec les autres, vous pouvez aussi intervenir. Et même dans certains cas, moi je dis, c'est un devoir, quel que soit son âge. Et donc, c'est vrai que voilà, le bouc émissaire, il y a aussi ce côté, l'allusion au vilain petit canard. C'est aussi pour dire aux enfants, le vilain n'est pas toujours celui qu'on croit ou qu'on désigne comme tel. Et d'ailleurs, au début, ils demandaient, les enfants ne comprennent pas toujours, il est où le vilain petit mouton ? C'est très joli. Parce que pour eux, ce n'est pas évident, ils attendent vraiment quelqu'un de vilain. Et tout à coup, voilà, le fait que le petit héros dise, quitte à devenir le vilain petit mouton, je veux réagir, pour eux, c'est intéressant parce que c'est aussi dire, voilà, je pense que parfois, on peut bien désobéir.
Bien désobéir, il y a aussi peut-être un fond de morale, mais justement qui n'apparaît pas, disons, ce n'est pas moralisateur. Je pense qu'il y a un rapport ou un lien avec la mise en scène qui vous permet justement d'éviter cet écueil. Comment avez-vous travaillé avec Guy Jutard ? Est-ce que vous avez découvert à la fin sa mise en scène ou est-ce que c'est pas à pas que vous avez mis au point cette mise en scène ?
Alors, Guy Jutard, on n'est pas notre coup d'essai, c'est un compagnonnage. Déjà, on avait travaillé en 2006 sur La Cour des Petits, une pièce que j'avais adaptée moi, qui n'était pas une commande pour les marionnettes. Et là, c'est vraiment une commande que lui m'a passée. Donc il a eu évidemment tout loisir de suivre, je dirais, l'écriture, de me diriger. On travaillait ensemble, j'ai beaucoup appris, parce qu'effectivement, c'est la première fois que j'écris pour les enfants. Donc lui, il a une énorme expérience de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais aussi comment on poétise le langage, quels mots on peut s'utiliser, préciser quels mots on doit s'interdire, parce que des mots compliqués à des moments culminants, s'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc ça, c'était très, très intéressant. Et puis après, moi, alors, je suis souvent avec les metteurs en scène, je propose et ils disposent. C'est-à-dire, moi, j'aime pas voir tout de suite... Ils commencent à travailler. En plus, on a cet extrême privilège. Ils répètent très, très longtemps. Ils ont répété pratiquement 9 semaines, hein, ce qui est magnifique. Parce qu'il y a tel problème technique. Hein. Heureusement, on ne les voit plus. Pour le spectateur, ils n'existent pas. Mais à mettre en place techniquement, c'est très, très difficile, même pour les comédiens. Et donc, voilà, je ne sais plus. Après 3 semaines de travail, il m'a demandé de venir une première fois. Et puis, il y a toujours des problèmes à résoudre encore dans le texte. On doit encore ajuster certaines scènes pour que ce soit plus clair, pour que ça marche mieux. Et puis, il y a la scénographie qui se met en place. Donc, tout ça, une sorte de savant mélange. Et puis, comme on s'entend très, très bien, c'est une mayonnaise qui prend vraiment tranquillement, sans heurts, ni dissension. Et puis, après, je suis allé de plus en plus souvent. Et puis, après, 3-4 jours avant la première, c'est le bébé, il faut le lâcher, il faut couper le cordon, c'est parti, quoi.
Est-ce que l'exercice est difficile, puisque vous êtes limité par le temps, 70 minutes, il faut donc que votre histoire tienne dans ces 70 minutes, écrire court, différentes méthodes?
Alors, c'est amusant que vous disiez ça, parce qu'on était parti sur 60 et j'ai pas réussi à tenir 60 avec cette histoire. Mais là aussi, moi, ce qui compte pour moi, c'est que ce soit tendu de bout en bout, qu'il se passe des choses. Si c'est 70 minutes, il faut que ce soit 70 minutes pleines. D'ailleurs, même pour les adultes, moi, je m'astreins à 1h30. Moi, souvent, je me dis, voilà, je crois qu'on peut raconter le monde en 1h30. Après, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on s'est entendu très vite avec Guy, c'est que... Au départ, mon écriture naturelle est très brève. C'est vrai que j'ai des répliques assez brèves. Et mes pièces ne sont pas très longues, mais les répliques elles-mêmes, comme je dis souvent d'ailleurs dans une de mes pièces, 5 lignes pour un personnage, c'est un monologue. Et c'est vrai que donc, ça aussi, c'est un côté très marionnettique, parce que comme la marionnette, on n'a quand même pas toutes les émotions humaines qui traversent. Tout ça. Donc, une marionnette, elle peut pas parler pendant 3 minutes. Le comédien, il peut pas la secouer comme ça pendant 3 minutes pour lui faire dire des choses, ça passe pas. Donc il faut que ça fuse, il faut que la parole soit distribuée, qu'elle tourne sur le plateau. Et donc pour moi, je dirais c'est plutôt facile de faire court que de faire long.
Et ces aphorismes, ou plutôt ces idées reçues que vous avez littéralement truffé votre pièce avec, est-ce que ce sont des phrases que vous avez ciselées, entendues à droite à gauche, ou est-ce qu'elles font partie d'une certaine culture populaire?
Oui, non, alors ça m'amusait, parce que je me dis, toute communauté, comme ça, il y a ce côté, le vieil adage, comme disait un vieux sage, mieux vaut flemmarder en retraité que besogner en ouvrier. Et alors, comme ça, ils ont les choses et ils se gaussent entre eux, ils sont tout contents. Non, je les ai inventés, parce que là aussi, moi, j'ai toujours la chance de l'écrivain, c'est que on peut tout inventer, tout imaginer. Le seul devoir de nous, c'est de rester, je dirais, harmonieux, cohérent et équilibré dans son propos.
Et avec ces idées reçues donc, que vous avez inventées, beaucoup de choses sont dites aussi en chanson, ce qui permet de créer aussi une atmosphère qui est carrément une culture pop.
Oui, et puis aussi très festif. Hein. Moi, je revendique vraiment toujours de nouveau. Je dis que moi, je m'ennuie beaucoup trop souvent au théâtre. Je pense que le rire est une émotion. Il faudrait que certaines personnes de théâtre s'en souviennent. C'est une réelle émotion, très agréable pour les grands comme pour les petits. Donc c'est vrai que ces chansons, par exemple, ça c'est intéressant parce que c'est issu de la commande, elles sont nées vraiment du travail sur le plateau. Moi j'étais pas là. Et ils ont pris des petites phrases dans le texte, et puis Guy a très vite eu cette idée aussi du fait que les manipulateurs sont à vue, de les faire exister, d'assumer vraiment ce côté. En plus, il y avait même narrativement un besoin, des besoins techniques à certains moments, notamment pour désherber le pâturage ou des choses comme ça, qu'ils agissent. Donc, tout à coup, cette idée de chanson est venue naturellement. Et puis, elles sont très, très agréables. Ouais, non, moi, je trouve que c'est très jubilatoire, même pour les enfants.
Même pour les enfants, mais un soir où vous aviez vu cette pièce, je crois, le soir de la première, même des personnes âgées rigolaient.
Ben moi, comme je le disais, c'est très important, c'est-à-dire que c'était sans doute peut-être mon plus gros défi, puisque d'habitude j'écris pour les adultes, c'était d'avoir l'obligation, d'abord c'était la commande et le défi, d'avoir ce premier niveau de lecture pour les enfants dès 6 ans, mais après je me dis, voilà, en tant que parent moi-même, souvent je me suis aussi ennuyé en attendant que ça finisse, parce que j'accompagnais mon fils et on ne s'était pas du tout préoccupé des adultes. Ben moi, pour moi c'est important, parce qu'ici c'est vrai que c'est un théâtre, les répliques vraiment au-delà des scolaires, les répliques public, on a souvent autant d'adultes que d'enfants, voire plus d'adultes. Parce que des fois, il y a les grands-parents qui viennent, il y a le grand frère, il y a la sœur, il y a le cousin. Donc voilà, je veux que tout le monde y trouve plaisir. Donc, alors, c'est cette problématique des niveaux qui était vraiment intéressante à travailler. Et là, vraiment, on a vraiment des rires distincts. On a des rires chez les adultes, on a des rires chez les petits, puis après, il y a des choses plus diffuses qui appartiennent un peu à tout le monde.
Vous êtes touché de les entendre chez les adultes ?
Bah, j'avoue que oui, parce que ça, je dirais que ça reste un public moins acquis que les gosses, même si les gosses sont très exigeants et puis ils sont... c'est frontal, hein, heureusement. Moi, j'ai vu des spectacles quand les enfants s'ennuient. Alors, ça part en live, ça jacasse, ça pleure, ça se plaint. Là, je touche du bois, c'est pas encore arrivé, ça n'arrivera pas, j'espère. Mais bien sûr, non. Et puis, de nouveau, c'est aussi plaisant de voir les parents qui ont le sourire en sortant. Ils ont aussi passé un bon moment.
Tous ces moutons vivent dans un enclos, ça peut être un pays, ce n'est pas véritablement important. Et vous les incitez, enfin ils sont incités à sortir de cet enclos, à explorer des horizons différents. C'est un appel à une certaine désobéissance, un appel à une certaine fantaisie. Est-ce que pour vous aujourd'hui l'héroïsme, le héros, ce serait d'avoir ce courage, cette fantaisie de sortir de son enclos ?
Je pense qu'on a tous nos propres enclos, hein. Ça passe aussi par les peurs, c'est une pièce aussi sur la peur. Je crois que notre premier enclos, c'est nos peurs qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent d'aller plus loin, qui nous empêchent de découvrir des choses. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne découvre pas par simple peur. C'est une pièce aussi sur les préjugés, donc effectivement, je crois que c'est ce que font les petits dans la pièce. C'est ils surmontent leurs propres peurs, ils transgressent. La loi des adultes, on leur a toujours dit qu'il ne fallait pas le faire, ben ils décident de le faire. Et donc, à mon sens, ils en sortent grandis, ils en sortent mûris. Et c'est vrai que voilà, je pense que ne serait-ce que les notions de bien et de mal, c'est vaste, mais c'est le premier enclos. Quoi. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Et à un moment donné, Bogdan, le mouton coloré, le dit à Marie, dont il est amoureux, dit la chose la plus dangereuse au monde, c'est la peur.
En somme, vous voulez les inciter à une certaine désobéissance, non pas par des moyens plus violents, mais c'est véritablement par la force de la satire.
Exactement, et en plus, c'est vraiment une désobéissance par rapport à l'injustice, parce qu'il faut être très clair. Est-il raisonnable d'inciter un enfant à désobéir ? Moi, mon fils, quand je lui ai dit, voilà, je vais écrire une pièce sur la désobéissance, puis toi aussi, tu verras, il me dit, bon, ben moi, je ne fais pas mes devoirs. Eh bien, j'ai dit, ça, c'est mal désobéir, parce que tu seras illettré, parce que tu n'auras pas un beau métier, et puis tu seras mal payé. Donc qu'est-ce que c'est bien désobéir ? Bien désobéir, c'est vraiment, je pense, quand on fait face, quand on est victime ou qu'on fait face à des injustices patentes, qu'on souffre, qu'on est humilié, qu'on parvient plus à vivre sa vie décemment. Là, je pense que vraiment, il devient urgent de désobéir. Et c'est ça aussi que j'essaye de faire comprendre aux enfants, c'est que si je dis « fais tes devoirs », tu dois m'obéir. Par contre, si en plein hiver, je te dis « saute dans le lac », tu dois désobéir. Donc, il y a un truc, mais c'est aussi une histoire de bon sens, de jugement. Donc, c'est intéressant d'en parler aux enfants, de désir, de perception de la réalité. Mais c'est vrai que moi, c'est des notions qui me passionnent, parce que je pense qu'aussi, écrire, c'est réfléchir. Donc, c'est aussi inciter à réfléchir. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais en tout cas, c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est important que les enfants, même à leur échelle, se disent... ouais, et peut-être que même moi, en tant que papa, j'enseigne pas toujours les meilleures choses. C'est important qu'ils le comprennent.
Et les enfants sont particulièrement sensibles à l'injustice.
Tout à fait, et je pense que il est vraiment plus on arrive à leur parler de ça tôt, plus ils vont se développer avec, plus il y a de chances que ça devienne comme un réflexe quand ils y sont confrontés de réagir, et en tout cas aussi de faire en sorte que eux ne provoquent pas d'injustice, ou le moins possible.
Le vilain petit mouton, il y a aussi un rappel avec le vilain petit canard d'Andersen.
Ben évidemment, c'est un clin d'œil à Andersen, avec la différence que le mien est vraiment un mouton, tandis que son canard en fait est un cygne qui s'avérera magnifique. C'est un clin d'œil, et comme je le disais aussi, c'est dans le sens où que vraiment que les enfants aussi soient confrontés au fait que... le vilain n'est jamais celui qu'on croit, ou rarement celui qu'on croit, et en tout cas pas celui qu'on désigne comme tel. Ça, c'est très très important.
Merci Olivier Cacchiari.
Merci. Genève Active.ch